Vous êtes avec SBS French.
Journal des sports en ce mardi. On va commencer par du football et les résultats des 32e de finale de la Coupe de France avec Antoine Grenier.
13 nouveaux qualifiés, parmi lesquels Nancy, équipe de Ligue 2, vainqueur 1-0 de Grande-Synthe, une formation de National 3, sur une réalisation du Camerounais Donan Do. Autre Africain en évidence, l'Ivoirien Jean-Philippe Crasso, seul buteur du succès 1-0 d'Épinal sur les Franciliens de Sannois-Saint-Gratien dans le duel d'équipe de National 2. Et puis côté Ligue 1, Nice peut remercier ses Algériens, Hichem Boudaoui et Adam Ounas, buteur lors de la victoire 2-0 sur Fréjus Saint-Raphaël. Parmi les autres résultats de la soirée, qualification difficile de Lille, 3-2 contre Rouen à l'étape, et de Marseille qui n'a sorti Trélissac, formation de National 2, qu'au tir au but, un partout au coup de sifflet final. Ange Nialeko, le capitaine ivoirien de Trélissac, avait quelques regrets au micro de nos confrères de France 3.
Ouais, bien sûr, déçu. Bon, de toute façon, notre scénario c'était de les amener le plus loin possible. On a dit d'abord, si on arrive à tenir la mi-temps et le match comme ça, comme on a fait sur le terrain, et les amener jusqu'au le prolongation plus les tirs au but, c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Et c'est ce qu'on a bien fait, quoi. Et bon, après, les tirs au but, ça reste de la loterie, et voilà, bon, on a perdu cette fois-ci.
L'Ivoirien Ange Nialeko, le capitaine ivoirien de Trélissac, a noté également la qualification du Paris Saint-Germain avec le premier but du franco-algérien Adil Aouchich, 17 ans, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du PSG. Éric-Maxime Choupo-Moting, le Camerounais, a parachevé le succès parisien 6-0 à la 87e minute.
Antoine Grenier, donc, pour le football en France, direction la Grande-Bretagne, l'Angleterre et l'ultra-domination de Liverpool qui s'effectue dans le championnat, mais également autour de la Cup avec un très beau parcours des Reds, donc, cette année en football en Angleterre. Troisième tour de la Cup, revu avec Olivier Pron et Philippe Auclair.
Et un Liverpool qui était très modifié, c'est moins qu'on puisse dire, pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir en Première Ligue ou en Ligue des Champions, pas de Sadio Mané, pas de Mohamed Salah, pas de Roberto Firmino. En fait, une équipe extrêmement jeune, mais qui a fait une véritable démonstration, il n'y a pas d'autre mot, face à une équipe d'Everton qui était pourtant le 11 le plus costaud que Carlo Ancelotti pouvait mettre sur le terrain à Anfield, où ils n'ont pas gagné depuis 1999. On s'attendait à une après-midi extrêmement difficile pour Liverpool, et en fin de compte, eh ben, ce sont les jeunes Reds de Jurgen Klopp qui se sont imposés. Un but absolument somptueux, magnifique, venu d'ailleurs, de Curtis Jones, absolument extraordinaire, 18 ans seulement. Ça, encore une fois, il faut le rappeler, une équipe d'Everton qui était au grand complet.
Si on se résume, coupe ou championnat, tout sourit aux hommes de Jurgen Klopp qui filent vers leur premier titre depuis près de 30 ans. Ça semble quand même difficile d'envisager autre chose.
Ah, voilà donc pour le football. On parle maintenant du Dakar et de la polémique autour des droits de l'homme. Le rallye anciennement nommé Paris-Dakar, qui s'appelle maintenant le Dakar, eh bien, a déménagé de l'Afrique, qui était parti à l'Amérique du Sud, Amérique centrale, et maintenant l'Arabie Saoudite pour 5 ans, et ça fait polémique. Olivier Pron nous explique pourquoi.
Le Dakar ne doit pas être une tribune offerte à l'Arabie Saoudite pour faire oublier les droits de l'homme. C'est ainsi que la FIDH, la Fédération Internationale des Ligues des Droits Humains, a interpellé vendredi ASO, la société organisatrice du Rallye Raid, qui pour la première fois depuis le Royaume Saoudien, après 29 ans sur le continent africain, une décennie en Amérique du Sud, motos, camions et autos du Dakar devraient rouler en Arabie Saoudite les 5 prochaines années. Une arrivée qui suscite des interrogations chez les défenseurs, donc des droits de l'homme et de la femme, tant le pays ne fait pas vraiment autorité en la matière. On peut aussi évoquer le sort peu enviable réservé aux opposants politiques. Accueillir le Dakar ou la Supercoupe d'Espagne de foot, une stratégie pour l'Arabie Saoudite en fait, qui veut ainsi s'acheter une image plus sympathique et donc plus touristique, comme nous le confirme Carole Gomez, chercheuse en géopolitique du sport à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
C'est un des objectifs de l'Arabie Saoudite, mais à mon sens, c'est des objectifs beaucoup plus larges et beaucoup plus divers. Puisque je verrai dans cette initiative-là, mais il y en a bien d'autres, trois objectifs. Un objectif politique, un objectif diplomatique et un objectif économique. Peut-être l'objectif économique est le plus simple à expliquer, dans le sens où il y a une vraie volonté de l'Arabie Saoudite de diversifier ses sources de revenus. On sait que l'énergie est sa principale activité, et face à un tarissement des ressources qui va arriver dans les prochaines dizaines d'années, il est important pour le royaume Stadium, d'arriver à développer et à de trouver de nouvelles sources de revenus. Et donc c'est aussi ça, et c'est expliqué dans le plan Vision 2030. Donc c'est aussi une des raisons qui explique cet investissement sur les questions de diplomatie sportive. L'élément politique, c'est évidemment, il a pleinement pris conscience, assez tardivement, que le sport pouvait être un moyen de rayonner sur la scène internationale, de donner une meilleure image de son pays et bénéficier de ce facteur, de ce levier d'influence non négligeable, chose qu'il n'avait jusqu'à présent pas du tout envisagé et qu'il regardait de façon un peu amusée ses différents voisins, ne considérant que ça ne valait pas forcément le coup. Et dernier élément, à mon sens, qui est diplomatique, puisque on sait qu'il y a une tension, c'est un euphémisme que de dire ça, assez importante au niveau de la région du Golfe, et notamment avec son voisin du Qatar. Et il y a eu aussi une façon de venir jouer quelque part sur les plates-bandes du Qatar, qui a réussi à s'imposer au fil des années sur la scène diplomatique sportive. Il y a donc cette volonté vraiment de donner une image différente que celle qu'on peut entendre, voir, lire quotidiennement. L'année dernière, c'était avec les affaires, avec l'affaire Khashoggi. Régulièrement, on voit des rapports de Amnesty International, Human Rights Watch, qui justement mettent en avant les différentes condamnations, lapidations d'hommes et de femmes au sein du royaume. Donc ça permet aussi de participer à diffuser, à imprimer une nouvelle image, une autre image du royaume auprès du grand public.
Voilà donc pour le Dakar et cette polémique autour des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Allez, on va finir ce journal d'espoir avec du handball et la sélection pour l'Euro qui arrive. Tout ça vous est expliqué par Loïc Bussière.
Le handball avec l'équipe de France qui terminait sa préparation à l'Euro 2020. Pas de la meilleure des manières. Après une facile victoire sur la Serbie vendredi à Metz, les Bleus ont bouclé leur stage en s'inclinant à Bercy face au Danemark, champion olympique et champion du monde. Le score 31-30 pour le Danemark donc. Un match qui comptait pour la Golden League, le tournoi amical disputé sur toute la saison. Alors que cet Euro qualifiera directement son vainqueur et seulement le vainqueur pour les Jeux Olympiques de Tokyo, faut-il s'inquiéter pour les tricolores? C'est la question posée au capitaine Cédric Sorindo.
S'inquiéter, oui et non. Je pense qu'on est à quelques jours d'un début de compète, donc il reste quelques jours à travailler. On sait très bien qu'en ayant de nouveaux axes de travail, mais forcément, il y a des imperfections. On a eu un premier match de la Serbie et deuxième confrontation contre le champion du monde. Donc je pense qu'à ce moment, on a pu voir des équipes qui s'observent, qui se connaissent. Et c'est surtout que la liste, elle sort demain. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas se faire mal, donc ce qui explique le faux rythme. Ben bon voilà, donc ils ont su nous mettre en difficulté, on a montré qu'on avait aussi des ressources pour pouvoir revenir au score. Donc après, bon voilà, comme je dis, il nous reste quelques jours maintenant à nous de bien se préparer pour débuter le championnat d'Europe et ensuite pouvoir monter en puissance.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS, à tout de suite.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.